d'histoires et contes.
Bonjour, d'histoires et de contes, aujourd'hui avec un texte de Jean-Claude Rouchouze intitulé « La classe ». Bonne écoute.
La classe. Je me dirige vers la piste aux herbes qui flotte à 20 cm au-dessus du sol. Je grimpe sur l'escalier aux marches de lavande qui prend son envol. Il contourne les nuages immobiles du ciel aux couleurs bleues et vertes et me dépose sur la colline aux épicéas à pattes où se trouvent l'école et ma classe. Ils sont déjà tous là, calmes et attentifs, assis, allongés ou debout, ailes repliées ou pattes étirées. Je me dirige vers le pupitre d'un ton résolu, d'un pas résolu, le menton relevé, la tête bien droite. J'ai toujours un peu d'appréhension quand je dois prendre la parole devant cette classe. Ils m'attendent avec dans leur regard un mélange d'animosité et de curiosité. Ils forment une assemblée bigarrée, polymorphe et hétérodoxe. Je regarde d'abord le crapaud et je l'interpelle. « Crapaud, est-ce que tu sais que la mouche qui ne bouge pas existe ?»« Non, me dit-il. Il n'existe que les mouches qui volent, qui bougent et qui sont bonnes à manger. Eh bien, moi, je te dis que tu te trompes. Tu vois comment est la mouche. Elle a des yeux à facettes, une tête noire, un thorax velu, un abdomen et six pattes. Tu la vois bien ?»« Oui, me dit-il, je la vois bien. Elle est comme cela quand elle vole. » « Eh bien, sache, crapaud, que quand elle ne vole pas, elle est aussi comme cela. Donc, immobile, elle est aussi bonne à manger que quand elle vole. Arrête de ne tirer ta langue vers elle que quand elle bouge. Pour toi, mobilité veut dire comestibilité. Mais moi, je te dis que immobilité veut dire aussi comestibilité. « Merci, me dit le crapaud. La prochaine fois, je tire ma langue vers une mouche immobile. » Et je vois si elle est comestible. Je quitte le crapaud du regard, et voyant somnoler le castor, je lui dis d'une voix forte. « Fibère 48, réveille-toi » Il sursaute. « Mais pourquoi m'appelez-vous Fibère 48 ?» Je lui dis. « Fibère, tu es un castor. Fibère est ton nom d'espèce, et tu as 48 chromosomes par cellule. Dis-moi, Fibère 48, comment construis-tu tes parages ?» Je le vois se rengorger. Il est en effet très fier de ses constructions. « Eh bien, me dit-il, d'abord je coupe les branches en pointe des deux côtés avec mes incisives en enlevant leurs feuilles. J'entrecroise les branches, ensuite je vais chercher de la boue que je place côté amont. Comme cela, elle va imperméabiliser mon barrage et je termine en posant des galets au sommet pour que les branches ne partent pas dans le courant. Il n'y a que moi qui sache aussi bien construire un barrage. Je lui dis, Castor, tu exagères, l'homme aussi construit des barrages, ainsi que ton cousin canadien. Dis-moi, Fibère, à ton avis, pourquoi les barrages des hommes résistent aux crues alors que les tiens n'y résistent pas ? Il me regarde d'un air interloqué. Eh bien, parce que les barrages des hommes s'enfoncent en profondeur dans le sol et ont aussi des ancrages sur le côté. Les tiens ne sont que posés dans le lit de la rivière. La prochaine fois, enfonce les bâtons que tu as taillés dans les berges. « Merci, patron, me dit-il. Je le ferai la prochaine fois. » Je me tourne vers l'écrevisse qui me fixe de ses yeux pédonculés. « Palipèce. » Tu m'as bien raconté que tu adores te faufiler entre les mailles du filet d'une balance après être monté en l'air.
« Ah oui, au mot sapin, c'est exact. Palipèce, je t'ai dit 100 fois que je ne me nomme pas au mot sapince, mais au mot sapiens. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, au mot sapince, mais j'oublie toujours.
Dis-moi, Palipèce, tu as grandi. Tu mesures combien aujourd'hui ?
Oui, j'ai grandi. Je mesure 9 cm du bout de mon rostre à l'extrémité de mon telson. J'en suis très fier.
Eh bien, Palipèce, je te déconseille très fortement d'aller maintenant sur les mailles d'un filet d'une balance à écrevisse, même si tu y trouves de la bonne viande bien fraîche.
Et que se passe-t-il si j'y vais quand même ?
Si tu y vas quand même, Palipeste, tu es cuite.
Je n'aime pas que vous m'appeliez Palipeste, il n'y a pas un autre nom. Je peux prendre ton nom scientifique, Ostrobotamobus.
Ah non, me dit-elle, c'est trop compliqué. Appelez-moi Ostro, tout simplement.
D'accord. Dorénavant, je t'appellerai Ostro, tout simplement.
Ostro, comme tu mesures 9 cm, tu ne peux plus passer à travers les mailles du filet de la balance. Les sapiens pêcheurs d'écrevisses vont te capturer, tourner ton tesson, t'arracher les boyaux et te jeter dans l'eau bouillante.
Mais c'est horrible ce que tu racontes là, sapins.
D'accord, d'accord. Dorénavant, je fuis toute balance posée au fond de la rivière.
Je m'adresse ensuite à la mouche qui me regarde de toutes ses ocelles.
Mouche, tu dois être phobique.
Ça va pas, sapiens. Je n'ai aucune phobie. Je ne veux en avoir aucune.
Je t'assure, mouche, tu dois avoir la phobie des fils.
Et pourquoi je devrais avoir la phobie des fils ?
Un fil, c'est joli, c'est argenté, ça brille dans le vent.
Mouche, au bout du fil, il y a l'araignée. Est-ce que tu veux être dévorée vivante ?
Certainement non. Mon instinct m'a toujours dit que l'araignée était dangereuse pour moi.
Eh bien, mouche, fil et araignée vont toujours ensemble. Si tu crains les araignées, tu dois craindre les fils.
Merci, sapiens, je retiens la leçon.
Dans son coin, l'araignée me regarde de travers. Mais je sais qu'elle pense une de perdue, 10 de retrouvée.
Les fourmis !
Je m'adresse aux 20 fourmis de la classe.
Quand vous partez en vadrouille, comment faites-vous pour retrouver votre fourmilière ?
Quand nous partons, me disent-elles toutes en cœur, nous déposons à intervalles réguliers une phéromone de piste, un marqueur olfactif, et au retour, après avoir trouvé quelque aliment, par exemple du miel à puceron, nous retrouvons notre piste olfactive que nous marquons une deuxième fois.
Fourmi, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi vous repérer par les éléments marquants du paysage. Une fleur particulière, un caillou brillant. Vous pouvez aussi gratter le sol avec vos pattes et ainsi tracer une piste à marqueur tactile.
Ah, merci, sapiens, répond-elle d'une seule voix. Nous n'avions qu'un seul type de marqueur jusqu'à présent. Maintenant, nous en aurons 3 et moins de risque de nous perdre.
Je m'adresse alors aux abeilles. Il y en a 50, toutes très disciplinées, comme d'habitude.
Abeilles, vous connaissez le frelon asiatique.
Ah, sapiens, ne nous parle pas de ce diable. Nous en avons une peur panique. Il est capable de décapiter chacune d'entre nous.
Vous voulez que je vous donne la solution pour vous en débarrasser ?
Bien sûr, bien sûr, vous rompriste-t-elle tout en cœur.
Vous devez faire une boule ou une demi-boule, vous entourez le frelon en le plaçant au centre et vous faites vibrer vos ailes dans sa direction.
La chaleur monte tellement qu'il ne la supporte pas et en meurt.
Merci, merci, sapiens, tu nous sauves la vie, disent-elles en abaissant respectueusement leurs antennes. Je parle ensuite aux vers de terre, il y en a une dizaine.
Vers de terre, est-ce que vous aimez les vibrations du sol ?
Ah oui, sapiens, répond-il, on les adore. Ça nous donne des frissons de plaisir dans tous nos anneaux, surtout les vibrations rythmiques comme celles des danses africaines.
Eh bien, vers de terre, vous devez détester les vibrations rythmiques, surtout celles qui partent de deux endroits très proches. Elles sont faites par les deux pieds d'un sapiens pêcheur qui veut vous faire remonter en surface, et alors il vous capture, vous empale sur un hameçon, pour vous faire dévorer vivant par un poisson qu'il mangera après.
Quelle horreur, clament les vers de terre. Être empalé sur un hameçon et être dévoré vivant.
Merci, sapiens, dorénavant, nous ne monterons plus en surface en percevant les vibrations rythmiques de la terre.
Je leur dis, je vous remercie tous. La leçon est terminée. Vous pouvez rentrer chez vous.
Le crapaud me dit au revoir, en rotant allègrement.
Ostro en claquant ses pinces l'une contre l'autre, la mouche en faisant vibrer ses ailes, les fourmis en entrechoquant leurs antennes, les abeilles en bourdonnant en cœur, les vers de terre en se frottant tous en même temps sur une racine et le castor en tapant 2 fois sa queue sur le parquet.
Je quitte ma classe sur la colline aux épicéas à pattes, monte sur mon escalier qui s'envole et me dépose sur la piste flottante qui me conduit à ma maison.
aux ailes de libellule et aux pattes vertes et jaunes, perché dans le chêne à la carapace de tortue. Cette classe nature est l'une de mes préférées, autant que celle de mes petits sapiens, de mes petits sapiens. Une nouvelle de Jean-Claude Rougeuse, écrite en décembre 2017.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont